le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il sera question d'avortement. Et oui, je m'inspire d'un article publié sur lefigaro.fr qui s'intitule « Financement des plannings familiaux, Marine Le Pen se désolidarise de sa nièce ». Cet article a été publié le 27 novembre dernier. Et voici ce que nous dit Le Figaro. Invitée par la Manif pour tous, Marion Maréchal Le Pen s'est exprimée en faveur de la suppression des budgets alloués aux plannings familiaux et aux associations LGBT. Donc, mesdames et messieurs, c'est quoi la Manif pour tous? C'est une organisation de plusieurs groupes qui ont manifesté en 2013 contre le mariage gay et qui ont poursuivi leurs revendications au fil des temps. Et eux autres s'opposent justement aux budgets qui sont alloués aux groupes pro-avortement, aux groupes pro-choix et aux associations LGBT. Qui sont les groupes LGBT? C'est lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Donc, c'est un lobby qui milite en faveur des droits et d'une culture qui est favorable et qui fait la promotion de la sexualité comme eux la conçoivent. Alors, mais pour la nièce de Marine Le Pen, qui est la chef du Front National. Le Front National, c'est un parti de droite, un parti avec une idéologie conservatrice. Et puis, au sein de ses rangs, eh bien, il y a Marion Maréchal Le Pen, qui est la nièce de la chef. Et donc, il y a une dissension entre les deux parce que la nièce, Marion Maréchal Le Pen, elle dit qu'il n'est pas question de verser un sou au groupe LGBT puis aux groupes qui sont en faveur des IVG. IVG, c'est interruption volontaire de grossesse ou ce qu'on appelle ici les avortements. Ce qui arrive, ce qui est étonnant, parce que le Figaro est quand même surpris de tout ça, parce que lors de la campagne présidentielle en 2012, Marine Le Pen, la présidente du Front National, elle était en bataille contre l'IVG de confort. En d'autres mots, nous, on dit, on n'a pas les mêmes expressions entre le Québec puis la France, mais on veut dire la même chose. Lorsqu'on parle en France d'IVG de confort, on dit, nous, ici au Québec, que l'avortement, ça devient un moyen de contraception. Donc, elle s'oppose à ce que l'avortement devient un moyen de contraception. Et donc, qu'est-ce qui fait que Marine Le Pen, en 2012, s'opposait à l'IVG de confort, et là, elle se distancie, elle prend une distance de sa nièce? Eh bien, c'est parce qu'elle dit, elle le justifie ainsi, et c'est le Figaro qui nous le rapporte. Elle dit, Marine Le Pen préfère que l'on parle de chômage plutôt que d'avortement. Donc, pour elle, c'est un focus. Elle dit, non, c'est pas que j'ai changé ma position, c'est que là, en ce moment, il y a une préoccupation qui est plus importante qu'est le chômage en France. Mais pour bien évaluer la situation, est-ce que c'est important de parler d'avortement? C'est important d'en parler au Québec parce qu'on ne veut pas rouvrir le débat, on ne veut pas avoir de débat là-dessus, on ne veut pas avoir de référendum là-dessus, on ne veut pas en discuter, on ne veut pas passer de loi là-dessus. Et pourtant, dans plusieurs pays, il y a des lois qui ont été passées. Par exemple, en Espagne, on limite l'avortement à 14 semaines. Aux États-Unis, à 24 semaines. En Irlande, c'est interdit seulement si la mère est en danger. Vous avez plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays, par exemple, d'Amérique du Sud qui sont contre l'avortement. Vous avez inévitablement les pays arabes qui sont contre l'avortement. Et nous, on a l'impression qu'ici au Québec, parce qu'on ne veut pas traiter de la question, que tout le monde ailleurs pense comme ça. Mais savez-vous quoi? Le site avortementivg.com nous révèle quelque chose qui, moi, me jetait en bas de ma chaise. Écoutez bien ce qu'on a écrit sur avortementivg.com. On estime à 50 millions chaque année le nombre d'avortements dans le monde et à plus d'un milliard le nombre total d'avortements légaux réalisés dans le monde depuis les législations diverses depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont d'abord les régimes soviétiques qui ont légalisé l'avortement dès les années 60, atteignant des taux d'avortement records de l'ordre de 2 avortements pour une naissance. Il y a une naissance, ça veut dire qu'il y a eu 2 avortements. C'est quand même incroyable, c'est énorme. Mais réalisez-vous que chaque année, on estime à 50 millions d'avortements dans le monde. C'est beaucoup. Au Canada, 100 000 avortements chaque année. 100 000 avortements chaque année. Au Québec, 30 000 avortements chaque année. Pourtant, au Québec, on est quoi? 22-23% de la population du Canada. Puis on représente presque un tiers des avortements. Alors, on est moins qu'un quart. Puis on représente moins d'un tiers. Donc, il y a 30 000 avortements sur 100 000. Donc, on a par capita un peu plus d'avortements que l'ensemble du Canada. La part du gâteau est beaucoup plus grosse au Québec que dans tout le restant du Canada. Donc, si on compare province par province. Et pourtant, en 1976, il y a 40 ans de cela, on comptait un peu moins de 8000 avortements par année. Donc, ça l'a presque quadruplé depuis les 40 dernières années. Vous savez, je vous disais qu'à travers le monde, on n'aborde pas l'avortement de la même manière. Comme nous, il n'est même pas question de revenir là-dessus parce qu'il n'y a aucune loi qui régit l'avortement en ce moment au Canada. Donc, il n'y a rien qui interdit l'avortement, il n'y a rien qui régularise l'avortement, il n'y a rien du tout. Donc, c'est libre cours total, liberté totale. Une femme peut se faire avorter à 9 mois. Tant que l'enfant n'est pas sorti du ventre de la mère, on peut procéder à un avortement. Au Pérou, on voyait ça hier dans le journal 24h.ch, le Pérou, c'est toute une autre dynamique. Le Parlement péruvien a rejeté mercredi une proposition de loi visant à dépénaliser l'avortement en cas de viol. C'est ce que nous rapporte le journal 24h.ch. C'est un second échec puisqu'ils nous disent qu'en mai, une commission législative avait rejeté une demande similaire. La proposition rejetée visait à autoriser l'avortement, notamment en cas de viol. Et donc, comme l'autorise la loi péruvienne, la proposition émanait d'une initiative populaire soutenue par 50 000 signatures et appuyée par les collectifs féministes. Mais ce qui arrive, c'est que l'Église catholique, par exemple, qui est la religion majoritaire au Pérou, eh bien, a lancé l'an dernier une campagne pour mobiliser les fidèles et la classe politique contre cette initiative populaire. Donc, on voit que les lobbies et les groupes de pression exercent une influence. Mais ici au Canada, ce qui arrive, c'est que oui, il y a des groupes de pression pro-vie, mais les communautés religieuses ou les groupes religieux ne se mobilisent pas pour mettre de la pression sur les gouvernements, ce qui fait en sorte qu'on a les lois qu'on a, on a la loi. On n'en a même pas de loi là-dessus. Et donc, ce qui fait qu'on peut, il n'y a même pas de clause d'exception, c'est tout est permis du début à la fin. Ce qui arrive, c'est qu'au Pérou, suite à ce que la loi n'a pas passé en faveur de l'opinion publique ou des groupes de pression qui voulaient justement au moins avoir l'avortement en cas de viol, eh bien, il y a eu des manifestations dans la rue. Il y a eu des femmes qui ont manifesté et plusieurs avaient comme écriteau ou c'était même écrit sur leur corps « C'est mon corps, c'est ma décision ». Et moi, je vous dirais que de dire « C'est mon corps, c'est ma décision », c'est pas un argument qui est rationnel. C'est irrationnel comme argument. Pourquoi? C'est sûr que ça c'est dit comme ça dans une discussion ou lancé devant les médias, les gens vont dire « Ouais, c'est vrai, c'est son corps, est-ce qu'on peut s'objecter à ça? » Moi, je dis que oui, on peut s'objecter à ça. Dans ce sens que, oui, je suis conscient que la femme qui porte un enfant, c'est une responsabilité pour presque 10 mois, un peu plus de 9 mois, 40 semaines. C'est clair que c'est une responsabilité, mais il y a une chose par contre. Ce n'est pas son corps qu'elle porte. Elle porte une autre entité. Elle porte dans son corps une autre entité. Et donc, elle a une responsabilité face à l'entité qui est dans son corps. Ce n'est pas seulement son corps. La preuve, lorsqu'une femme fait une fausse couche, par exemple, disons à 12 semaines de grossesse, une femme fait une fausse couche. Et c'est normal qu'elle soit triste. Et moi, j'ai connu plusieurs femmes qui ont fait des fausses couches et c'est un triste moment de la vie. C'est vraiment triste. Je ne le dis pas là, sans émotion. C'est un moment extrêmement troublant. Maintenant, la réaction qu'une femme qui vient de connaître une fausse couche face à son enfant qu'elle a porté, qu'elle a perdu, n'est pourtant pas la même réaction chez une femme qui va se faire avorter. Pourtant, c'est le même être humain, dans le sens, c'est pas la même personne, là, parce qu'on compare deux personnes, mais ce sont, dans les deux cas, si c'est une fausse couche, c'est un être humain, et si c'est un avortement, c'est un être humain aussi. Ça peut pas être dans les deux cas. Dans une fausse couche, c'est un être humain, dans un avortement, c'est pas un être humain. Donc, on voit que ce sont deux entités différentes. L'enfant qui est dans le ventre de la mère, c'est un corps différent qui est porté par le corps de la mère, oui. On ne peut pas dire « c'est mon corps », elle a la responsabilité d'un autre corps. L'autre chose de dire « c'est mon corps, c'est ma décision », ça dénigre le coproducteur de cet enfant-là. Le père est dénigré. Lui aussi, il a un rôle, il a une responsabilité, puis il doit y avoir une décision à prendre. On doit impliquer le père dans la décision. On ne peut pas juste dire « c'est mon corps ». Pourquoi on ne dit pas « c'est notre corps » ou « c'est notre conception » ? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec des arguments à l'emporte-pièce qui peuvent avoir de l'air, qui peuvent avoir un certain rayonnement, mais qu'à un moment donné, lorsqu'on analyse, on se dit « oh, un instant, c'est pas tout à fait juste de lancer ça comme argument pour convaincre le gouvernement de changer les lois. » Si on appliquait, par exemple, cette loi-là qui n'a pas passé au Pérou, si on l'appliquait au Québec, parce qu'au Québec, comme je vous ai dit, 30 000 avortements à chaque année. Si on se dit, OK, on passe une loi maintenant, on interdit l'avortement, mais on l'accepte seulement en cas de viol. Comment ça se passerait? On a en moyenne, environ, là, j'arrondis, au millier près, 4 000 agressions sexuelles chaque année, ce qui est énorme. 3 500 sont des femmes, OK? 3 500 agressions chez les femmes, parce que lorsqu'on agresse des hommes, ils ne peuvent pas tomber enceintes. Mais selon, et ça c'est des statistiques de agressionssexuelle.gouv.qc.ca qu'on retrouve ça, OK? 4 000 en moyenne environ, j'arrondis. 3 500 sont des femmes. Si on va sur le site science.qc.ca, on nous dit qu'à peu près 5 % des femmes tombent enceintes à la suite d'un viol. Donc, si vous avez 5 % de 3500, on parle de 175 avortements. Donc, on tombe, mesdames et messieurs, de 30 000 avortements à 175 avortements. Voyez-vous l'écart? Simplement, si on changeait la loi, on pourrait sauver plus de 29 000 bébés par année. C'est énorme, juste en changeant une loi, en modifiant une loi. On ne veut pas débattre de ça. On a même refusé, les députés fédéraux ont même refusé, parce qu'il y avait un projet de loi qui avait été déposé, ça n'a pas été adopté, il n'y a pas eu une majorité de vote en faveur de ce projet de loi, en disant « laissons la science déterminer à quel moment un fœtus devient un être humain à part entière. » Personne. Ils ont dit, non, on va se détacher de toute partisanerie. Là. Si c'est la science qui détermine les choses, laissons-la parler. Personne n'a voulu que la science détermine même à quel moment le fœtus est un être humain. Les chrétiens croient, comme les juifs, comme les musulmans, que dès la conception, l'enfant est un être humain. Savez-vous quoi? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut légaliser les avortements en cas de viol. Je suis en train juste de comparer des chiffres. Mais écoutez bien ce qui s'est passé dans l'Exode. Quand les sages-femmes se sont organisées, parce qu'il y avait une loi qui disait qu'il fallait que les bébés mâles meurent et qu'on garde juste les bébés filles, les femelles qui étaient juives. Et les sages-femmes voulaient essayer de sauver le maximum d'enfants. Puis là, ils accouchaient en cachette ou ils cachaient pour pas justement que ces jeunes mâles-là se fassent tuer. Et qu'est-ce que Dieu dit de ça dans Exode 1, 20, 21? Il dit « Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. » Et écoutez, si on peut réduire le nombre d'avortements par des lois, si on peut les descendre, ça sera déjà un pas de fait. Est-ce qu'on peut l'éliminer? Ça serait la meilleure chose à faire. Mais si du moins on pouvait descendre le taux d'avortement, si du moins on pouvait en débattre et en discuter sur la place publique, avoir un référendum sur la question, déjà on avancerait. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on dispose. Alors, c'est le temps de clore cette émission. Je vous invite donc à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. Si vous voulez discuter davantage, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante, leblogueuracommercialericlantier.net. C'est leblogueuracommercialericlantier.net. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net, le www.ericlantier.net. C'était Éric Lantier sur le 92,7 FM. Alors, je vous dis donc à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur @ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!